Bonjour, Jean-Claude Issaly, administrateur et animateur de cette émission À tire d'aile, l'émission de la Ligue pour la protection des oiseaux de l'Aveyron. Il y a une quinzaine de jours, je vous ai parlé de la migration. On a vu les principaux traits de la migration, en particulier, je dirais, la façon dont les oiseaux constituent des réserves pour pouvoir accomplir de grands voyages. Je vous ai parlé un petit peu aussi du vol, hein, des différents types de vol, de l'utilisation du vent, de l'altitude, etc. Enfin, un certain nombre de points. Et bien sûr, de la migration de printemps et de la migration d'automne. Les différences qu'il y avait entre ces deux migrations. Migration montante, migration descendante. Aujourd'hui, nous allons donc approfondir un petit peu d'autres points, notamment la migration de nuit, les particularités physiologiques des oiseaux. Ils ont des capacités particulières et ils ont donc des organes un petit peu spécifiques. Et surtout, ce qui est fascinant de l'orientation, comment ils peuvent arriver à s'orienter pour ne pas se perdre. Les oiseaux doivent choisir aussi, est-ce qu'ils volent de jour, est-ce qu'ils volent de nuit. Nous, on a l'impression que tous les oiseaux diurnes se migrent le jour et que les oiseaux nocturnes migrent la nuit, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Des études récentes par radar ont montré que les deux tiers des oiseaux volent de nuit, et ça, bien sûr, sans qu'on puisse s'en rendre compte. Heureusement qu'on a des outils comme des radars. Chez les passereaux, la majorité des migrateurs diurnes sont des migrateurs de courte distance. Principalement des granivores comme les alouettes, les bruants, les linottes. Mais il y a aussi des insectivores qui ont des migrations courtes et qui volent de jour, comme les pipites et les bergeronnettes. Voilà, la grande exception parmi ces petits oiseaux, ce sont les hirondelles, qui sont vraiment des migratrices au long cours, puisqu'elles peuvent aller hiverner, donc elles vont en Afrique, mais au-delà du Sahara, et même jusqu'en Afrique du Sud. Voilà, ça c'est vraiment l'exception. La majorité des oiseaux migrateurs vont privilégier donc la migration nocturne. C'est vraiment beaucoup d'espèces qui migrent de nuit. Pourquoi elles volent de nuit? Pour certains, la réponse est évidente. Les rapaces, les cigognes dépendent des courants thermiques, donc de ce qu'on appelle les pompes, pour prendre de l'altitude et effectuer des alternances d'ascendance et de glissement. Voilà, donc ça, effectivement, la nuit, c'est beaucoup plus difficile. Les courants thermiques peuvent totalement disparaître. Et puis, on pourrait penser que la nuit, le risque de prédation est moins important. C'est possible, mais il y a quand même certains prédateurs, quelques rapaces nocturnes et quelques faucons qui sont un petit peu spécialisés quand même dans la capture des oiseaux migrateurs nocturnes. Les principales raisons, a priori, qui font que les oiseaux migrent de nuit, c'est le gain de temps et la nécessité de s'alimenter. Pour les migrateurs au long cours, ceux qui font de grands voyages, le temps qu'il aurait alloué pour migrer, il est restreint. Et ça deviendrait un problème s'il devait s'alimenter deux jours et migrer deux jours. Du coup, en volant toute la nuit, après, ils ont la journée pour manger, se reposer un petit peu. Donc, la migration nocturne leur permet de couvrir de grandes distances dans le laps de temps qui leur est disponible. Et les journées donc, sont mises à profit pour s'alimenter. Les passereaux, ils s'alimentent traditionnellement de jour. Après, d'autres oiseaux peuvent s'alimenter effectivement de nuit. Les migrateurs courte distance, en fait, eux, ils disposent de plus de temps pour effectuer leur migration, comme les trajets sont nettement moins longs. Donc, ils migrent souvent le matin et ils s'alimentent le reste de la journée. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi une économie d'énergie. Les dépenses énergétiques sont moindres dans l'air nocturne qui est plus frais et qui est plus dense. La nuit, les vents horizontaux sont plus faibles, La probabilité d'avoir des vents contraires puissants, elle est plus faible aussi. Et puis, la gamme de variation des directions des vents est plus réduite la nuit, ce qui fait que les oiseaux ont plus de facilité pour choisir l'altitude de vol à laquelle les vents sont les plus favorables. Voilà, et puis il y a moins de risques physiologiques, effectivement, parce que les oiseaux qui font du vol battu, notamment, ils ont un risque quand ils font des migrations, des parcours un petit peu longs, c'est le risque d'hyperthermie, c'est-à-dire que leur corps chauffe trop. Ben, la nuit, effectivement, il fait plus frais, donc c'est un petit peu mieux. Et puis, ils ont un autre risque aussi, en volant de jour, c'est qu'ils se déshydratent. Et la nuit, l'air est plus humide, donc c'est mieux pour eux, mais je vais en reparler peut-être un petit peu plus loin. Alors, il y a pas mal d'oiseaux qui, pendant la migration, s'arrêtent, de jour donc, et effectuent ce qu'on appelle de la migration rampante. En fait, c'est-à-dire qu'ils continuent tout en s'alimentant, ils peuvent avoir migré le matin par exemple, ou migré la nuit, et puis tout en s'alimentant dans la journée, ils passent d'un buisson à l'autre, d'une haie à l'autre, mais dans la direction normale de leur migration. Ça, petit à petit, effectivement, ça leur raccourcit quand même un petit peu les escales. Et ils se nourrissent en même temps. Après, quelque chose qui est important aussi pour la migration, c'est le vol. On parle souvent du vol en V. En fait, tous les oiseaux ne migrent pas en faisant ce qui vole en altitude. En formation comme ça. On a les oies, les cormorans, les grues cendrées, les vanneaux qui sont connus pour faire ça. Et en fait, dans ce genre de vol, les oiseaux échangent en permanence leur position. L'oiseau de tête n'est pas toujours le même, ça tourne. Donc c'est l'oiseau de tête qui dépense le plus d'énergie et les autres, au contraire, en économisent. Et ils sont légèrement décalés, ce qui forme le V ou des traits un petit peu particuliers. D'après des études, le gain d'énergie obtenu grâce au vol en formation atteint 20%. Donc c'est vraiment important pour eux, et surtout pour les vols au grand cours. Mais ils disposent aussi d'adaptations physiologiques. Déjà, les oiseaux, ils ont un corps qui est relativement aérodynamique. Ils ont un poids léger, qui est dû au fait qu'ils ont des cavités dans les os qui sont remplies d'air. Et ils ont un système vasculaire et respiratoire particulier. Et aussi des adaptations musculaires qui sont particulières. Donc il existe aussi de nombreux types de perfectionnement du métabolisme qui leur permettent d'entreprendre donc cette migration. Des adaptations qui leur permettent de mieux utiliser l'oxygène, qui est plus rare en altitude, et des adaptations qui leur permettent de maintenir une chaleur constante.
Straight into your arms,
Écoutez à Tire-d'Aile, l'émission de la LEPO Aveyron, consacrée aujourd'hui à la migration des oiseaux. Donc je vous ai parlé des nombreuses adaptations du métabolisme, je vais revenir quand même sur la thermorégulation. L'hyperthermie est un danger important, c'est-à-dire que la température corporelle monte. Ainsi, certains oiseaux, quand ils sont en plein effort de migration, leur température corporelle peut monter à 47 degrés. Et au-delà, ils risquent ce qu'on appelle l'hyperthermie. Donc, ils ont un système qui leur permet de réguler un petit peu cette température. Il faut savoir que la température normale des oiseaux, elle se situe entre 38 et 42. Beaucoup d'espèces sont autour de 40 degrés. Et de même, il y a un problème aussi s'ils perdent trop d'eau par évaporation, c'est-à-dire qu'ils risquent de se déshydrater. Donc ils ont aussi des mécanismes qui leur permettent, notamment quand ils mobilisent les graisses et les protéines, de récupérer de l'eau. Donc l'augmentation de l'altitude de vol et la migration nocturne permettent en partie de limiter ces risques d'hyperthermie et de déshydratation. Aux altitudes élevées, il y a aussi des risques d'hypoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène. Il y a des risques d'hypocapnie, qui est la déficience en dioxyde de carbone, mais surtout il y a les risques d'alcalose, qui est l'alcalose, c'est la chute de la concentration en hydrogène dans le sang. Donc l'appareil respiratoire des oiseaux en fait a une efficacité beaucoup plus élevée que celle des mammifères, notamment pour l'échange des gaz. Et on peut noter aussi que le cœur est également deux fois plus grand que celui des mammifères de même taille. Voilà, puis après il y a d'autres adaptations au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau notamment qui ne se contractent pas comme pourraient le faire ceux des mammifères si on les mettait quand ils montent en altitude. Voilà, et ce qu'on a aussi trouvé, c'est que pour les oiseaux qui battent des records d'altitude comme les vautours ou certaines grues qui passent au-dessus de l'Himalaya, en fait, elle possède plusieurs types d'hémoglobine et ces différents types d'hémoglobine sont utilisés en fonction de l'altitude. Alors, autre point très important aussi pour la migration, c'est qu'il faut que les oiseaux ils aient un plumage qui soit tout à fait en état pour pouvoir migrer, sinon ça peut leur poser problème. Or, on sait que les oiseaux ils doivent remplacer leurs plumes, donc ils muent. Donc là aussi, il y a différentes attitudes en fait, selon les espèces. Il y a des espèces comme les anatidés, les canards, qui perdent d'un coup toutes leurs plumes, c'est-à-dire en fin de reproduction. Ils se maintiennent dans des zones de marécages, de plans d'eau, dans des zones où il y a de la végétation, où ils peuvent se cacher. Et là, ils perdent toutes leurs plumes de vol. Les rémiges, les plumes des ailes, et les rectrices, les plumes de la queue. Du coup, ils peuvent passer 3 semaines, un mois, en étant incapables de voler. Par contre, après, une fois qu'ils ont des plumes toutes neuves et qui ont bien poussé, ben, ils sont vraiment parés. Pour partir en migration. Donc. Mais au contraire, chez les grands oiseaux, chez les grands rapaces, chez les albatros, chez les grands voiliers, la mue est extrêmement longue. Elle s'effectue très lentement. Elle s'étale sur plusieurs années. Et donc ainsi, les oiseaux ils gardent toujours des capacités de vol importantes, intéressantes. Et puis côté fascinant de la migration, c'est l'orientation. Comment font les oiseaux pour ne pas se perdre quand ils partent en Afrique ou quand ils reviennent au printemps pour retrouver leur lieu de reproduction, hein. C'est en baguant les oiseaux qu'on s'est rendu compte que les hirondelles, par exemple, partent hiverner dans le sud de l'Afrique ou centre ou au sud de l'Afrique et elles reviennent le printemps suivant, enfin pour celles qui peuvent réussir, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de pertes. et elles reviennent exactement à l'endroit où elles sont nées ou où elles ont élevé une nichée l'année précédente. Donc c'est vraiment cette orientation, ça a toujours passionné la curiosité humaine, et depuis des siècles on se pose beaucoup de questions, on en a résolu, mais on ne connaît pas encore tout. On sait que les oiseaux utilisent des repères pour s'orienter, des repères visuels, géographiques, le relief, les traits côtiers, les montagnes. Mais on sait aussi qu'ils s'appuient sur les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Et on sait aussi qu'ils sont sensibles aux champs magnétiques terrestres. On dit que les oiseaux se servent de compas biologiques internes. Alors ces compas, il y en a de trois types. Il y a le compas solaire. Ben, plusieurs oiseaux utilisent une sorte d'horloge interne et ils peuvent s'orienter donc en fonction de l'azimut solaire. Il y a le compas magnétique. Et on sait que la Terre peut être vue comme un gros aimant avec deux pôles magnétiques, le pôle nord et le pôle sud, qui sont situés proches des pôles géographiques, qui sont un petit peu différents. Et les oiseaux, ils sont très sensibles. Et ça, il y a pas mal d'expériences qui l'ont montré. Le compas magnétique semble être le plus utilisé lors de la migration, surtout dans nos latitudes. Il explique notamment l'aptitude des oiseaux à migrer par ciel couvert. Effectivement, par ciel couvert, ils ne peuvent pas se repérer grâce au soleil ou grâce aux étoiles la nuit. Donc ce compas magnétique serait présent chez toutes les espèces d'oiseaux et beaucoup plus, je dirais, pointu chez les oiseaux migrateurs. Il y a le compas stellaire. Il a été constaté que même si les oiseaux sont capables de migrer la nuit par ciel nuageux, la capacité d'orientation elle est quand même un petit peu réduite quand il y a des nuages. Donc le compas stellaire, pour quelques espèces, leur permet de mieux s'orienter. On sait que c'est le cas pour les fauvettes à tête noire, la fauvette des jardins, les gobe-mouches noires, les rouges queues à front blanc, qui sont des oiseaux qui sont chez nous et qui passent chez nous. Mais on pense que le compas stellaire est quand même utilisé en complément du compas magnétique. Donc en fait, c'est l'agencement de tous ces compas qui font que les oiseaux ne se perdent pas. Autre question, le changement climatique a-t-il un impact sur les migrations ? Alors effectivement, on voit déjà des conséquences sur la migration des oiseaux. Certaines espèces ont tendance à revenir plutôt au printemps sur leur lieu de reproduction. Ça touche notamment les migrateurs partiels, qui sont plus sensibles aux variations de température régionales que les espèces qui hivernent au cœur de l'Afrique, quoi. Donc ça, on le voit avec les fauvettes à tête noire chez nous, avec les serincinies, certaines hirondelles qui maintenant hivernent dans le sud de la France ou en Espagne. Voilà. Donc depuis 30 ans, en fait, cet avancement dans les déplacements, dans les migrations, atteint de l'ordre de 5 à 12 jours selon les espèces. Et ça peut poser problème parce que si les dates d'arrivée des migrateurs sur leur site de reproduction sont plus précoces, donc elles peuvent ne pas coïncider avec les pics d'émergence des insectes. Et du coup, la mortalité dans les nichées peut être vraiment drastique et poser problème à l'espèce. Donc à terme, on craint que ça puisse nuire à certaines espèces et bon, on espère ne pas conduire à leur extinction, mais du moins localement, affaiblir les populations. De même, certaines espèces jusqu'alors migratrices, même transsahariennes, ont tendance à hiverner en petit nombre dans l'Europe du Sud. On le constate pour certains hérons, pour la cigogne blanche, pour la cigogne noire, qui n'hivernait pas ni en Espagne ni dans le sud de la France et qui maintenant hiverne. Le milan noir aussi, qui est un rapace qui arrive donc mars-avril, qui repart en juillet, il a tendance aussi à rester un peu plus et à hiverner dans le sud de la France, en Espagne. On a aussi quelques cas d'aigle botté, de balbuzard pêcheur qui hivernent dans le sud de la France, ce qui n'était pas le cas il y a simplement une quinzaine d'années. Il y a aussi les changements climatiques. En fait, ils peuvent induire des périodes de sécheresse importantes et du coup, ça peut pousser les oiseaux à partir plus tôt. Ça peut être le cas dans les deux sens, c'est-à-dire sécheresse chez nous et les oiseaux du coup partent un petit peu plus tôt ou sécheresse en Afrique, qu'ils font démarrer aussi un peu plus tôt leur retour vers chez nous. Et puis, il y a d'autres soucis. Par exemple, les déserts qui ont tendance à augmenter, la ceinture sahélienne qu'on appelle, qui a tendance à devenir de plus en plus importante, hein, le désert gagne vers le sud, vers le nord, bon, il est déjà relativement implanté, mais quand même, donc du coup, ça augmente la taille des parcours que les oiseaux doivent faire. Donc ça aussi, ça a une importance, une importance qui fait que des oiseaux peuvent avoir des manques ou des réserves insuffisantes pour traverser ces grands déserts. Donc vous voyez que la migration est soumise à pas mal de facteurs. Et ça reste vraiment quelque chose de fabuleux. Mais les oiseaux donc parcourent des distances importantes en prenant aussi pas mal de risques. Mais c'est aussi la perpétuation de l'espèce qui est en jeu, puisqu'il faut qu'ils trouvent en hiver comme en été les conditions suffisantes et intéressantes pour pouvoir se reproduire. Donc voilà, notre émission touche à sa fin. Je vous dis à bientôt.
CFM. CFM Villefranche.